Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous pouvez écouter en podcast sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui, nous sommes dans l'atelier de cordonnerie Bautier de Manuel Burgos. Bonjour.
Bonjour.
Nous sommes dans ton atelier avec une odeur de feu de bois.
Oui, oui, voilà. Il y a le petit feu comme tous les matins que je démarre pour commencer. Et après, par la suite, je continue avec ce qui est resté de la veille, en fait. Là, par exemple, je suis en train de faire la préparation de l'assemblage des pièces. Donc, j'ai fait du parage, en fait. Il faut éviter, en fait, les surépaisseurs. Donc, pour ça, il faut faire une préparation avant de faire l'assemblage.
Alors là, tu es en train de découper des pièces à assembler pour confectionner une chaussure. C'est un processus que tu as préparé déjà depuis un moment, c'est-à-dire tu utilises des gabarits pour tailler le cuir.
Oui, en fait ça commence par modèle. En fait, à l'avance, il faut tenir en compte quel type de chaussures je vais faire, homme, femme, enfant, et pour quelle utilisation. C'est pas pareil une chaussure de sport, de ville, si la personne va passer 10 heures dans la journée avec les chaussures aux pieds. Donc c'est toutes des choses qui vont déterminer d'abord le modèle et le type de fabrication, etc.
Alors si j'ai bien compris, tu crées des chaussures sur mesure, de tout style, de toute demande. Ça t'est arrivé par exemple de refuser de fabriquer une paire ou de ne pas réussir à pouvoir la produire, par exemple?
Non, ça se voit à l'avance, en fait. C'est vrai que parfois, les gens, ils ne sont pas forcément les connaissances. Donc, c'est vrai que et parfois, il y a des idées qui ne sont pas tout à fait réalisables. Mais ça, il faut les voir à l'avance. Et si tu veux, il y a des modèles de base. C'est un Oxford ou un Richelieu, comme on appelle en France. Et aussi un Derby. Ça, c'est deux modèles de base. Et après, il y a des variantes. Et sur cette base-là.
Je ne connais pas trop les adjectifs ou les aspects de chaussures. Quand tu parles de Richelieu, c'est-à-dire ce sont des chaussures sans lacets?
Pas forcément. Ça peut être avec des lacets ou pas. Je peux te montrer. Voilà, là, on a trois modèles différents. On a un Richelieu. Donc là c'est une chaussure montante avec élastique. Donc, il n'y a pas de lacets, là. Là, on a un Derby bas, il y a des lacets sur ces modèles. Et là, c'est une variante d'un Derby. Ce modèle, il est connu comme Chuka. C'est aussi le modèle, c'est aussi la coupe Clark. Peut-être que les gens, ils sont en tête un peu ces modèles-là. Et là, c'est un autre type de cuir et c'est une autre construction aussi. C'est pas du tout du Clark. Mais voilà, et là, tu peux voir les variantes.
Alors, en fonction des modèles, par exemple, c'est d'avoir des chaussures avec le moins d'assemblage possible. Enfin, cette chaussure rouge, je la trouve magnifique. Quand on confectionne une chaussure, moins il y a de pièces, plus elle est solide.
Oui, il y aura moins d'assemblage, moins de couture. Et c'est vrai, après, il y a un modèle où il y a le moins de pièces, comme tu dis. En anglais, ça s'appelle one cut. La chaussure, elle sera toute entière. Il y aura une seule couture que c'est à l'arrière.
Oui.
Donc du coup, ça enveloppe le pied. Il y a une seule couture à l'arrière, comme je t'ai dit, avec un renfort comme sur toutes mais les chaussures, sur tous les modèles. Mais ça fait que, disons que c'est le modèle où il y a le moins d'assemblage et des pièces.
Pour amener une forme du pied sur le cuir, tu utilises pour ça des moules à chaleur pour les former? Ou alors comment ça se manipule? Par exemple, là, cette chaussure est en deux parties et malgré tout, elle a déjà sa forme.
Non, là,
c'est l'assemblage et les coutures qui font la forme?
Non, pas du tout. Il y a une partie, oui, qui sera travaillée justement sur le patronage. Quand on fait le patronage d'une chaussure, on va découper les pièces de telle sorte à qu'elles puissent au mieux la forme. Tu peux voir, par exemple, on appelle ça une tige. En fait, la tige de la chaussure, c'est ça. C'est le dessus de la chaussure. Et donc là, tu peux voir, la tige, elle est prête à monter. Et c'est vrai qu'elle n'a pas vraiment la forme d'une chaussure, quoi. Donc c'est le travail du monteur qui va faire que la chaussure, elle prenne, qu'elle suive la forme du pied, du moule, comme tu dis. C'est pas un moule, c'est une forme. La forme, elle représente les pieds.
La forme du pied.
La forme du pied, oui.
Et la taille aussi, puisque oui. Tu as une forme pour chaque taille, hein, c'est ça ?
Une forme pour chaque taille et aussi pour chaque hauteur des talons. Et ça va varier aussi, encore une fois, en fonction du modèle. Par exemple, une forme un petit peu plus pointue, c'est esthétique. Dans ces cas-là, c'est pour une chaussure de ville. C'est très bien comme ça, mais il y a des formes qui sont plus confortables. Par exemple, cette basket, voilà, c'est une chaussure sport, mais elle a une forme arrondie au bout. Ça va faire qu'au niveau des orteils, les pieds ils soient plus à l'aise, en fait. Ça ne veut pas dire qu'une chaussure de ville, elle est moins confortable, mais c'est différent.
Voilà, la chaussure de ville, c'est plus pour marcher. Après, pour des activités plus physiques, la basket est idéale.
Oui, bon, ça dépend du type de marche.
Alors, quand une personne vient te voir et te demande de confectionner une paire de chaussures, comment ça se passe ?
Il faut savoir d'abord si c'est un homme, une femme ou pour un enfant et l'utilisation de la chaussure. C'est ce qui va déterminer par la suite sur quoi je peux aller, sur quelle direction, quelle sera l'utilisation de la chaussure, etc. Et donc, en fonction de ça, je peux établir, je peux proposer un modèle ou un autre. Par rapport au type de construction de la chaussure aussi, ça c'est... Sur cette 4 paires, par exemple, il y a 3 types de constructions différentes.
Comment s'opère la prise de contact ? Est-ce que la personne vient aussi pour faire, comment dire, des prises de mesure ?
Il y a 3 façons d'aborder cette question, parce que, en fait, sur mesure, ça veut dire tout à fait adapté à la personne. Et départ, comme tu viens de dire, des mesures et pour les restes. Après, il y a aussi... Donc, pour ça, il faut créer une forme pour la personne, justement pour qu'elle soit sur mesure et par des vrais. Après, il y a la demi-mesure. Alors là, et par exemple, sur une forme standard, par exemple sur un 42... La demi-mesure, il s'agit du choix des matières, des couleurs, et on s'arrête là. Et sinon, il y a les standards, que c'est qu'on va dans un commerce et on prend une paire, et bah là, on choisit rien. On prend la pointure qui nous correspond et avec la couleur qu'ils nous proposent.
Ça, ce sont les chaussures dites Richelieu ou Derby.
Oui.
Quand tu parles d'autres styles de chaussures, lesquelles produis-tu par exemple ?
Là, par exemple, on reste sur la même base.
Un recouvrement total du pied ?
Oui, et sur la même base, mais c'est un modèle complètement différent. Par exemple, sur le cou de pied, là, on a une ouverture très à l'aise. Et peu importe si la personne elle a un cou de pied un petit peu fort, la chaussure elle va s'adapter toujours. Parce que le type de fermeture, c'est par lacet déjà en plus. Et donc, ça nous permet d'élargir cette partie-là. Aussi parce que le modèle, et la coupe, elle va jusqu'à là.
Combien de temps te prend pour confectionner une paire de chaussures ?
C'est relatif, ça dépend encore une fois du modèle.
Par exemple, pour une chaussure Derby, là, telle que je vois, ça te prend à peu près combien de temps pour un adulte ?
C'est le type de construction aussi, c'est environ 40 heures. Mais c'est une construction, c'est un cousu très pointe. Dans le commerce, c'est connu comme Goodyear. Et Goodyear, c'est la personne qui a créé la machine pour faire la couture. Mais cette couture, elle existait déjà et ça a toujours été fait à la main. Parce que là, je l'ai fait à la main.
Oui.
Donc, il y a une couture qu'on ne voit pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, on peut voir, il y a des petites marques. Ça, c'est la couture qui est à l'intérieur. Et c'est la couture qui va relier le dessus à la première semelle, à la semelle qui est en contact avec les pieds. Et ensuite, le tout va relier la semelle. Par exemple, j'ai pratiqué une gravure à 45 degrés et je soulève les cuirs. C'est la lèvre en fait. Et je vais faire cette couture là, la dernière couture. Et ensuite, quand la couture elle est finie, et je vais rabattre cette lèvre là. Et donc, c'est pour ça qu'on ne la voit pas de ces côtés, et côté dessus de la semelle. Et parce qu'elle est cachée. Elle est cachée avec le but de conserver le fil. Parce que sinon, le fil il sucerait.
Sinon, il y a des J'ai vu des chaussures avec des réserves en sillon en dessous, sur la semelle.
Oui, oui, il reste apparent en fait. C'est une façon industrielle de faire la couture. Ensuite, c'est un métier qui est très segmenté aujourd'hui. En fait, on a environ 4 ou 5 postes dans le métier aujourd'hui pour faire une chaussure. Il y a le formier, il y a le patronnier, modéliste. Il y a celui qui va couper, il y a celui qui va faire le piquage, l'assemblage des pièces. Et il y a le monteur, finisseur. Et c'est un métier qui s'apprend au fur et à mesure. Il faut passer par toutes les étapes. Après, il y a aussi différentes façons de travailler, parfois selon les régions et aussi selon les pays. Et même si c'est un métier qui a beaucoup voyagé avec les champs et qui continue à l'amener d'ailleurs un peu partout. Par exemple, en Argentine, d'où je viens. Pareil qu'en France, il y a eu une grande immigration arménienne. Donc, les Arméniens, ils sont très forts dans la chaussure. Donc, c'est avec des champs comme ça qu'il faut travailler. Une fois arrivé en France, j'ai pu travailler avec les compagnons du devoir. Il y a un compagnon particulier, Romain Didier. C'est lui qui m'a ouvert les portes, en fait, du compagnonnage. Et c'est comme ça que j'ai appris une façon de travailler qu'il y a en France. En France, c'est très pointu, si on veut. Il y a des façons de faire. Il y a des façons de faire qui vont faire, qui vont donner comme résultat une esthétique et peut-être et surtout des caractéristiques de la chaussure.
Et puis tu peux répondre aussi aux demandes de la personne qui veut peut-être un certain style, une certaine couleur. Comment ça se passe?
Oui.
Est-ce que par exemple tu as une sorte de catalogue de ce que tu as déjà produit? Et qui permettent de guider la demande d'une personne.
Oui, après, moi j'ai un catalogue. Il y a aussi l'effet de... À chaque fois si par exemple on me demande un modèle qu'il faut faire des A à Z, c'est juste que ça prendra plus de temps. Parce que si on me demande une chaussure comme ça, j'ai déjà mes patronages, j'ai déjà une partie qui est faite, si on veut. Après, oui, c'est des variantes.
Devant la chaussure derby de couleur rouge, je voulais savoir, à titre indicatif, on pourrait payer combien pour avoir une paire comme celle-ci?
En ce moment, j'ai fait un prix d'appel qui est 180 euros pour l'instant. Pour l'instant, c'est ça. Ce n'est pas ces prix-là qui coûtent en vrai la chaussure. Et après, il y a un coût qui est fixe, qui c'est la matière première. Après, c'est du temps. C'est le temps que je vais passer sur la fabrication. Pour l'instant... Je propose ces prix-là par rapport à un modèle et à un type de fabrication. Après, avec un modèle comme ça, par exemple, on est à 800 euros, donc c'est très variable.
Et d'autant plus qu'il y a énormément de pièces et de décorations sur celle-ci. Alors que la derby, c'est un assemblage d'au moins de deux pièces sur le dessus du pied.
Oui.
Voilà, et ça, c'est ça qui fait la différence du coup. C'est le moins de temps à passer pour la fabriquer aussi.
Oui, 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 parce que c'est la charge horaire en fait. Mais par contre, là par exemple, oui, il n'y a que deux pièces, même à l'arrière, il n'y a pas d'assemblage, ce qui nous donne une solidité garantie. Mais ça ne veut pas dire qu'elle soit rapide hein, à faire. Parce que déjà, le patronage, il faut bien l'adapter. Et ensuite, au montage, et en fait, le monteur, c'est lui qui prend tout, quoi. Parce que c'est le monteur qui va faire que la chaussure, elle sorte comme il faut. Donc, si le cuir, là, on est avec un cuir de 1,8 mm sans la doublure. Donc, c'est un cuir fort. C'est un tannage particulier aussi. Donc, ça fait que c'est pas évident à travailler. Mais bon, c'est au monteur de faire en sorte que la chaussure elle sorte avec un bel aspect et comme il faut.
D'ailleurs, pour les cuirs, tu te fournis où?
Ça dépend. Il y a des tanneries comme Dupuy ou Danone. Il y a des tanneries qui sont spécialisées dans certains types de cuir. C'est une tannerie qui fait que des cuirs gras, en fait. Ça dépend du type de cuir.
C'est du cuir de bovin, en général, ou alors il y a d'autres types de peaux qui sont utilisées, comme le mouton, non? C'est peut-être pas un bon cuir pour les chaussures?
Oui, c'est un bon cuir. On utilise le mouton dans la chaussure médicale, surtout comme doublure. En fait, quand une peau devient du cuir, quand elle a été soumise au processus de tannage, Et c'est le tannage qui va déterminer à quoi elle sera bon ces cuirs-là. Donc dans la doublure, on utilise des cuirs, des tannages végétales par rapport aux allergies et parce que c'est en contact avec la peau, donc avec la peau de la personne, je veux dire. Après, un cuir qui va à l'extérieur, il faut un cuir qui soit fort, qui soit résistant. Pour la semelle, c'est pareil. C'est, si on veut, on peut faire... C'est-tu des veaux ou des bovins? Mais c'est le tannage qui va déterminer l'utilisation du cuir.
Et la question que je me pose aussi par rapport à tous ces cuirs, c'est qu'il y a des cuirs très épais et d'autres beaucoup plus fins. Comment arrive ce processus? Par exemple, pour les chaussures, c'est un cuir très épais qui est utilisé, non?
Bah oui, tu peux voir. Par contre, bon, par exemple, en général, pour une chaussure des villes haut de gamme, c'est 7 mm l'épaisseur de la semelle.
Quel est le processus qui fasse qu'on se retrouve avec des cuirs très épais et d'autres beaucoup plus fins? Et est-ce que c'est pas en fonction des parties du cuir ou de l'animal où les peaux sont plus fines ou plus épaisses?
Il y a un petit peu de ça. En fait, ça dépend dès le départ de la qualité de la peau. Une peau qui est très régulière, qui n'a pas beaucoup de cicatrices, disons qu'elle sera traitée au tannage, surtout pour les parties du dessus de la chaussure. Mais par contre, ce qu'on va toujours garder, c'est la fleur. En fait, sur un cuir, on a le côté fleur et le côté chair. Donc, le côté fleur, c'est la partie la... C'est plus fort, en fait. C'est plus résistant. Donc, par exemple, là, quand c'était une peau, peut-être qu'elle faisait bien 5 mm d'épaisseur. Et elle a été refendue. La refonte s'est coupée dans ce sens-là, dans l'épaisseur. Et donc, on va garder la fleur. Et après, pour les différentes parties de la peau, oui, certes, qu'on a une peau entière, par exemple, là, on sort les parties de la chaussure qui sont plus exposées à l'usure.
Manuel, tu es issu d'une famille qui travaillait déjà à la chaussure?
Oui, c'était mon père, en fait.
Voilà, en Argentine, hein?
Oui, oui, en Patagonie.
Tu t'y es mis très tôt dans cet exercice de cuir?
Oui, très tôt, mais bon, c'était pas facile la relation avec mon père, donc...
Qui n'a pas de difficulté avec son père.
Donc c'était plus par moi-même qui par la suite, et j'ai fait mon chemin en fait. Ça a été un peu comme ça.
Est-ce que tu es passé par l'Italie dans ta formation?
Non, 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 j'ai pas travaillé en Italie. C'est vrai qu'il y a une esthétique... Et assez singulière en Italie. Et après, c'est la ligne. Hein. Comme ils disent les Italiens, c'est la ligne qui va faire cette esthétique-là. C'est très subtil, en fait. Si la ligne, elle vient là, en fait, on se rend presque pas compte de la variante. Mais quand la ligne, elle vient là, ça va donner ça. Mais si la ligne, elle va un petit peu plus en avant ou un petit peu plus en arrière, ça va pas changer énormément à la chaussure, mais à l'œil, si, ça va changer.
Ça, ce sont des chaussures dites classiques. Est-ce que tu opères aussi des chaussures pour femmes?
Moi, je suis spécialisé dans la chaussure homme. J'ai travaillé aussi sur les chaussures femmes, mais en France, j'ai beaucoup travaillé dans l'orthopédie, dans la chaussure médicale. Et donc, j'ai fait beaucoup de chaussures de femmes. C'était pas trop sur la fantaisie.
Et tu as suivi quelques formations au niveau de la podologie pour confectionner des chaussures orthopédiques?
Oui, en travaillant, après, j'ai passé des examens. Et j'ai profité, comment dire, en France, ils ont cette chance de que ce soit établi par différents organismes. On peut faire un parcours de formation, même en travaillant. C'est comme ça que moi, j'ai validé mon expérience.
Manuel, tu disais tout à l'heure avoir suivi un ami qui était dans le compagnonnage. Toi-même, tu as fait un peu le compagnon?
Oui.
Dans ce cas-là, tu as appris toi-même à créer tes propres outils?
Là, par exemple, un des outils les plus importants dans mon métier, c'est le tranché. En fait, ça, c'est un tranché que j'ai fait moi-même. C'est une scie à métaux que j'ai transformée en tranché, en fait. Il y a d'autres outils qui ont façon pour les besoins qu'on a. Il y a des outils très, très particuliers, et même et le marteau, c'est pas moi qui l'a fait, hein, mais le marteau des cordonniers, ils ont une forme très particulière. C'est exclusif pour l'utilisation qu'on fait de l'outil.
Voilà, ça permet aussi de former en même temps que de frapper la pointe, par exemple. à l'aide de comment on appelle ce type de socle sur lequel on pose la chaussure?
C'est un pied de cordonnier, c'est un pied de fer. Ça, on se sert surtout pour la réparation. On peut pratiquer différentes étapes sur cet outil-là. Même l'encollage, on le fait sur cet outil-là.
J'avais déjà posé la question tout à l'heure. C'était le temps que pouvait prendre la confection d'une paire. C'est très variable, tu disais, mais est-ce que, par exemple, tu as des situations où tu as dû te faire une paire de chaussures en moins d'une semaine, par exemple? C'est trop court ou c'est possible?
C'est possible, mais ça m'est arrivé, mais pas en travaillant tout seul. Donc, mais oui, ça m'est arrivé, par exemple, on m'a donné, par exemple, une paire qu'un sort et c'était pour le lendemain. Mais alors là, j'étais monteur. Je reçois la tige, après j'ai fait la préparation au montage et je monte la chaussure. Et parfois, il faut aller très vite.
Qu'est-ce qui t'a fait venir dans le Diwa?
D'abord, c'est ma compagne qui était ici. Donc après, j'étais allé en Italie pour j'avais envie d'aller travailler là-bas. Et quand j'ai venu ici, j'ai rencontré quelqu'un que je connaissais d'Argentine, en fait. C'était un copain qu'on se voyait depuis des années. On s'est rencontré ici par hasard. Et donc, et du coup, ça a fait que petit à petit, je suis en train de m'installer. Et c'est une région très agréable aussi. Et il y a des gens très sympas. Donc, il y a des points très positifs.
Où sont visibles tes productions?
Il y a un site internet, si on peut taper Manuel Burgos, cordonnier bottier, et ça apparaît. Avant, j'ai travaillé avec des boutiques. En fait, avant, il y a longtemps, quand j'habitais à Buenos Aires, j'ai déposé mes créations dans des boutiques, en fait. Là, j'ai envie de refaire ça dans différentes villes d'Europe, poser mes produits. Dans des villes qui sont susceptibles d'avoir une demande. Il n'y a pas tellement de choix, en fait. En dehors des Nike, Adidas et compagnie, et moi, je trouve qu'il n'y a pas, une offre de création alternative. C'est aussi parce que parfois, les gens, ils sont, je dirais... ça dépend des régions ou les villes ne sont pas prêts à jouer le jeu. Si on veut de l'artisanat, si on veut un peu sortir du monopole qui nous montre une façon de voir les choses, il faut aussi entretenir ça. Il faut entretenir les gens qui s'investissent dans la création dans des métiers comme ça.
Est-ce qu'il est vrai que les cordonniers sont les plus mal chaussés?
C'est vrai que ça arrive parfois, mais bon, je sais pas qu'est-ce que t'en penses.
Moi, je trouve pas. Pour travailler, c'est des belles chaussures. Hein.
C'est pas tout à fait le cas toujours, quoi.
Manuel, merci d'avoir donné un peu de ton temps. Est-ce qu'on peut visiter ton atelier, par exemple? Et où se situe-t-il?
Oui, bien sûr. Il suffit de prendre un rendez-vous. Il y a mon téléphone sur le net, mon adresse mail, et vous pouvez prendre contact. Mais c'est ouvert à tout le monde.
Hein. Prochainement, est-ce que tu comptes présenter ton travail au public?
Oui, et en fait, il y a un événement en particulier, c'est les journées européennes des métiers d'art. En 2018, ça se déroule à partir du 4 avril. Donc je prépare un travail pour cet événement-là. Je vais travailler en collaboration avec d'autres personnes. Ça sera les portes ouvertes à cette occasion-là. Et les gens ils pourront voir plus de fantaisie appliquée à mon métier. Plus de créativité, l'idée c'est de pousser un petit peu les limites justement de la chaussure.
Eh bien, merci Manuel et je te souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.
Merci à toi aussi. Merci d'être venu.
Interview.
super.
L'interview du jour.